Ouais, sont bonnes les bouffes.
On s'y va.
Les Cyprinettes vous guettent.
L'émission féministe de Radio Larzac.
Lubrifiante, mais non lubrifiée.
Qui brise les clichés.
Êtes-vous satisfaite?
Bande de sales féministes.
Non, je suis propre, je sors de la douche.
Ça va lubrifier.
Avec
moi.
Moi, toi.
Et toi.
Are you ready, boo?
Les Cyprinettes.
Les Cyprinettes vous guettent.
On est parmi vous, on est de retour, alléluia. De retour pour vous aider à fendre en deux vos préjugés. Tels des Moïse modernes, nous frayons un chemin dans un océan de Cyprine.
Amen.
Et vous guidant vers la terre promise.
Oh my God!
Oh my God!
De retour parmi nous aussi, Amélie.
Hello.
Derrière les manettes.
Et Emily.
Bonjour.
Ah oui, encore.
Emily.
Mais enfin, Chloé, calme tes ardeurs.
Et Mimi.
Bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Et oui, aujourd'hui, vos cyprinettes préférées vont vous parler de...
Miaou.
Pornographie féministe.
Alors.
J'en entends certains qui murmurent « Non, mais c'est vulgaire, et en quoi le porno, ça serait féministe ?» Ah, mais c'est sûr que quand on parle d'égalité salariale, ça va, mais que quand on plaide pour une réappropriation de notre corps et du plaisir, ça dérange dans les chaumières. Alors pour vous mettre les poings sur les... Ah oui. Aujourd'hui, donc, Mimi nous causera du docu de dépente, mutante punk porn féminisme. Et Amélie nous éclairera sur Linda Lovelace. Pour finir cette douzette des Cyprinettes, la boîte de Pandore renaîtra de ses cendres. On y entendra des extraits du film « Ceci est mon corps » et je vous y lirai quelques extraits du Tumblr « Paye ton taf ». Alors prête ? On ouvre le bal avec Emily. À vos culottes.
3, 2, 1, mouillé !
Pornographie et féminisme. Alors on va faire une petite... Enfin on va lire la petite définition de la pornographie. Représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, etc. de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Plus courte, présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques, publications, spectacles, photos, etc. Le mot serait apparu au siècle des Lumières et il désignait principalement les études sur la prostitution. D'un point de vue étymologique, le mot pornographie dérive du grec ancien pornographos, lui-même un dérivé de porné, qui signifie...
Sexe.
Prostituée.
Prostituée, ah ouais.
C'est pas péripatéticienne, prostituée ?
Péripatée.
Péripatéticienne ? Ben dans le grec, non, c'était porné.
Ah ouais.
Péripatéticienne, c'est celle ou celui qui marche. Et pas forcément la prostituée, du coup. Socrate est un péripatéticien.
Oui, on dit pas péripaté ou pâté ?
Pâté, non ?
Pâté, hein ?
Pâté.
Moi, j'ai toujours dit pâté, mais...
Moi aussi.
Enfin bref.
De tofu, mais...
Donc...
Pornographie, donc ça dérive de porné, prostituée, et de grapho, qui signifie peindre, écrire ou décrire. Aujourd'hui, si je vous dis porno, vous pensez tout de suite aux films pornographiques, donc des actes sexuels filmés, en général, que l'on regarde en se masturbant.
Qui a rigolé ?
C'est moi. Non, moi je regarde des pornos en faisant du Scrabble.
Ah ouais ?
Bah ouais.
Bah, chacun son truc.
Bah oui.
Pour comprendre la vision du porno aujourd'hui, il ne faut surtout pas oublier qu'il était à l'origine donc dédié aux hommes qui étudiaient, entre guillemets, les femmes et leur propre plaisir, donc c'est pour ça dérivé de prostituées. Ce qui nous amène dans notre émission à nous poser pas mal de questions, comme le porno est-il un problème féministe ? Les féministes sont-elles anti-porno ? Peut-on aimer le porno lorsqu'on est féministe ? Qu'est-ce qui gêne une féministe dans la notion de porno ? Et y a-t-il du porno féministe ? Et moi, pour me documenter, je suis allée sur le site Pornhub, que peut-être vous connaissez.
Perso, je suis plus YouPorn.
D'accord. Bon, ma première réaction, avant même d'ouvrir ne serait-ce qu'une petite vidéo, j'ai senti déjà une petite excitation dans le bas du ventre. Ça devait être purement mécanique, la vue de corps nu peut-être, l'idée de savoir que j'allais regarder du porno sûrement. En tout cas, ça a fonctionné très vite. Deuxième réaction, putain, il y a de plus en plus de catégories. dont une que je retiens, qui s'appelle « Pour les femmes ». Bon, bah, je me dis, d'abord, je me dis que tout le reste est dédié aux hommes, sûrement, et je clique. Et là, je clique, et à part ma première excitation mécanique du début, j'hésite à plusieurs reprises à cliquer sur une des vidéos. Il y a des titres romantiques, des situations amoureuses, des femmes qui ont l'air de s'aimer tendrement. Et puis finalement, je clique sur une vidéo que je trouve personnellement un peu guimauve. C'est érotique, moi je trouve ça érotique et c'est pas ma tasse de thé. Alors est-ce qu'on appelle ça du porno ou pas ? Peut-être qu'on pourra en débattre dans l'émission. En tout cas, moi ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que je savais pas encore ce que je cherchais dans le porno, mais je savais ce que je n'y cherchais pas, et c'était exactement ça, la catégorie pour les femmes qui ne me convenait pas. Et pourtant, ça doit plaire à certaines, et tant mieux, parce que le porno, par définition, est censé provoquer l'excitation du public auquel il est destiné. Et donc aujourd'hui, et depuis quelques années, il s'intéresse aux femmes. Enfin, plutôt, les femmes s'intéressent au porno sur plusieurs plans. Comme réalisatrice, public, productrice, et être humain recherchant le plaisir. Et le porno, lui, sert à quoi ? Encore une fois, à provoquer le plaisir de son public. Notre façon de regarder du porno a changé. Les vidéos ne peuvent durer aujourd'hui que quelques minutes, ce ne sont plus forcément des longs films qu'on loue, des cassettes VH, enfin bon, bref. Et puis, petite masturbation rapide, ou pas, ou Scrabble, je sais. Et même dans le porno, effectivement, on va de plus en plus rapidement et on provoque une excitation, pour le coup, plus rapide. Qu'est-ce qui nous gêne le plus dans le porno ? C'est la vision de la femme, les rapports de domination, sexiste, racial et social. Le sexe dans un univers patriarcal, et oui, le porno est le reflet de tous ces rapports patriarcaux. Je vous lis donc un extrait d'un post du blog féministe Crêpe Georgette, que je vous invite à découvrir. Une femme qu'on représente dans le porno comme aimant sucer change donc de statut. De femme lambda, elle devient cette grosse chienne, cette salope qui est le statut acceptable et tolérable pour une femme aimant le sexe. Enfin, admettons que les femmes sont un peu comme du PQ, elles se dégradent très vite. Un mec peut bien baiser 50 femmes, en sodomiser 3 et en lécher 15, il reste un homme. J'entends par là qu'un homme n'est pas souillé ou dégradé par ce qu'il peut faire. À peine une femme a approché un index d'un pénis, qu'elle est à demi souillée, et croyez-moi ce n'est pas très pratique, les femmes semblent être très facilement salies dans le patriarcat. En revanche, celui qui les salit ne l'est jamais miraculeusement. Le porno, et la sexualité en général, m'ont donc toujours semblé très puritain, dans la mesure où le sexe est très souvent considéré comme sale. Comme une activité, comme à part. Sur la majorité des sites mainstream, vous aurez des femmes pénétrées, très peu d'hommes qui le sauront. Vous aurez des femmes avec 5 mecs dessus, des femmes sur qui on urine, des femmes qu'on fiste, des femmes qu'on attache, des femmes à qui on enfonce des bites dans la bouche à en vomir, etc. etc. Peut-on encore questionner cela sans se voir traité de puritaine ? J'en doute très fortement. Il est bien clair que nos fantasmes n'ont rien d'individuel et se créent toujours par rapport à une norme sexiste, raciste, etc. Quand il y a une rubrique « black » ou « interraciale » sur un site, ça n'est pas anodin. Donc passer par l'humiliation des femmes pour jouir, tant du côté masculin que féminin, n'est pas très surprenant. Je me pose néanmoins la question de ce que cela renvoie au moment où le porno devient un loisir comme un autre. Qu'est-ce que ça ancre dans nos têtes ? Est-ce qu'on doit aussi réformer notre sexualité et nos fantasmes, et donc potentiellement s'emmerder au lit ? Vous me direz que c'est déjà le cas de beaucoup de femmes. La sexualité est très peu souvent dans le porno ou ailleurs présentée comme quelque chose de cool et de joyeux. Peut-elle l'être quand elle est, comme je le disais, tout entièrement traversée par de forts rapports de pouvoir ? J'en sais rien, mais il conviendrait peut-être de penser un porno qui ira davantage dans ce sens. Mais comme le porno n'est que le reflet de notre société, de nos fantasmes, il ne pourra, semble-t-il, évoluer massivement qu'avec des changements sociaux importants. Fin de citation.
C'est terrifiant.
C'est donc à partir de ce constat qu'on... Donc là, c'est un extrait que je viens de lire du blog féministe Crêpe Georgette. C'est donc à partir de ce constat que des féministes se sont imprégnées du porno afin de ne plus laisser ce champ aux hommes. C'est-à-dire de ne pas condamner la pornographie, mais de la réinventer. Les premiers mouvements de libération des femmes à la fin des années 60 ne se préoccupaient pas vraiment de la pornographie. Tout change à la fin des années 70, sans doute en partie à cause de l'augmentation de la visibilité de la pornographie, et de l'attention grandissante portée par les féministes au viol et aux autres formes de violence masculine à l'égard des femmes. Pour ces féministes de la première vague, la pornographie transmettait une idéologie de la suprématie masculine d'une manière particulièrement haineuse. La théoricienne du féminisme Robin Morgan déclarait « La pornographie, c'est la théorie et le viol, la pratique ». Suzanne Braun-Miller, activiste, reprend ce thème dans un ouvrage paru en 1975 sur le viol, en affirmant qu'il ne peut y avoir d'égalité dans le porno, pas d'équivalent féminin, pas de renversement des rôles au nom de la paillardise. La pornographie, comme le viol, est une invention des hommes conçue pour déshumaniser les femmes. La pornographie est l'essence pure de la propagande anti-femme. Ça, c'était la première vague des féministes.
Oui, c'est le féminisme radical, ça.
Ben, c'est pas le féminisme radical, c'est le premier rapport au porno que les féministes ont eu.
Abolitionniste, en fait.
Ouais.
Puis il faut sûrement voir à quoi ressemblait le porno aussi à cette époque. Il a dû évoluer.
Ouais, c'est ça. Et il commençait tout juste à être popularisé. Oui, si, popularisé.
Démocratisé, peut-être.
Exactement.
Avec plaisir, mon petit.
Et donc, nous, on n'est pas de cette vague-là. Donc, les vagues suivantes, c'est celles qui nous ont amené aussi notre propre réflexion féministe d'aujourd'hui. Elles se sont imprégnées de ces théories et puis les ont adaptées, les ont faites évoluer. En 1999, Marcel Karp et Debbie Stoller écrivent dans leur ouvrage « The Best Guide to the New Girl Order », paru donc en 1999, « Nous n'avons pas de problème avec la pornographie, à moins bien sûr qu'elle ne nous rabaisse. Nous réalisons que la culture porno américaine va perdurer, donc au lieu d'essayer de débarrasser le monde des images sexuelles que nous pensons néfastes, comme certaines de nos sœurs ont tenté de le faire, nous préférons encourager les femmes à explorer le porno pour voir si ça leur plaît ou si ça les ennuie. » Bien que le marché de films de cul pour femmes soit bien loin derrière celui pour hommes. C'est un principe de notre version du féminisme de reconnaître que ce marché existe. Donc voilà, l'idée est claire, on ne peut pas vaincre la bête, alors autant voir si on pourrait pas prendre notre pied aussi. Si vous ne pouvez pas les vaincre, joignez-vous à eux. Et voilà qu'arrive le porno féministe. Rebecca Wisnant, professeure de philosophie et dans le département des études féministes à l'université de Dayton, explique, je cite... Qu'en faisant ou consommant de la pornographie, on affirme que c'est bien pour les femmes d'être sexuelles et de vouloir du sexe. Que les femmes ne sont pas des réceptacles passifs du désir sexuel masculin, mais ont également leur propre désir sexuel. En outre, dans la pornographie alternative ou féministe, nous voyons occasionnellement des femmes différentes du canon de beauté prescrit par Hollywood. Le plus souvent, l'apparence alternative semble se composer principalement de tatouages et de piercings, mais j'ai remarqué que cela implique rarement d'avoir des poils pubiens. Mais lorsqu'on regarde de plus près les déclarations des pornographes qui se qualifient de féministes, la politique clairement libérale et même libertaire au cœur de leur entreprise apparaît sans ambiguïté. Au fond, cette pornographie est dite féministe parce qu'elle est produite par des femmes qui choisissent librement de le faire. Par exemple, Johanna Angel, une pornographe qui se qualifie de féministe, a déclaré « On pourrait faire un porno dans lequel une fille se fait étrangler, frapper et cracher dessus, dans lequel le type la traite de sale pute, etc. et qui serait féministe tant que chacune et chacun a le contrôle sur ce qu'il ou elle est en train de faire. » Fin de citation. Sauf qu'il y a plusieurs avis féministes encore sur ce sujet, et aujourd'hui encore plus, et sur le porno, et d'ailleurs, heureusement. En fait, il y a plusieurs types de porno féministe. Il y a le porno féminin, il y a le porno féministe, et dans le porno féministe...
Tu commences ? Oui, pas mal. Et dans le porno féministe, il y a aussi les féministes pro-sexe.
Ouais.
Comme la grande Virginie Despentes.
La grande Virginie Despentes. On en avait déjà discuté de Virginie Despentes l'année dernière, souvenez-vous, quand on avait parlé de... Béatrice Paul Preciado et de son essai sur la testostérone et donc Virginie Despentes et Paul Béatrice Preciado qui sont très en lien.
En couple ? Non, je crois qu'elles le sont. Ils le sont plus. Enfin, bref, ouais. La page closer est terminée.
Virginie Despentes m'a fait découvrir un univers que j'ignorais totalement. Le féminisme pro-sexe. Mouvement qui est à l'opposé du féminisme radical, mais qui prouve à travers son documentaire que ce mouvement punk ou porno alternatif, fondé sur les bases queer, est dans le prolongement du féminisme radical. Car après tout, à bien y réfléchir, ce mouvement pro-sexe est aussi un féminisme radical. À la différence près que les femmes revendiquent à leur façon le droit de disposer de leur corps pour assumer pleinement et sans culpabilité de le livrer à la production pornographique et à la prostitution. Oui, je le savais déjà, il y a des femmes qui ont choisi le statut de prostituée, qui assument pleinement cette fonction. Elles ne sont pas toutes issues de réseaux mafieux, victimes d'hommes peu scrupuleux. Ainsi, Virginie Despentes déculpabilise quelque part l'homme client voyeur pornographe. Point, 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 point. L'intervention de Catherine Breillat et quelques stars du monde de porno est rassurant et tient la route dans le documentaire Mutante Punk Porn Féministe de Virginie Despentes. Ainsi, selon ces femmes, actrices porno et prostituées n'hésitent pas à remettre en cause le fameux rôle d'objet sexuel qui revient aux femmes. Au contraire, la sexualité, leur sexualité, doit être considérée comme un pouvoir. On y découvre des personnages assez truculents, étonnants, comme cette artiste Annie Springle, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui invite le public à regarder le col de son utérus et qui se masturbe sur scène. Comme ce pornographe Della Grace Volcano qui s'amuse à brouiller les pistes des corps, ni femme, ni homme, un transgenre qui peut être aussi les deux. Ces clichés sont très surprenants. L'homme et la femme se confondent. Mutante est un film où les corps sont assumés, valorisés, transfigurés, déstructurés, où la sexualité est considérée comme revendication politique, sociale et culturelle. Mutante est une fenêtre qui permet de découvrir d'autres horizons de réflexion, de bousculer quelques barrières de préjugés et peut choquer si l'esprit n'est pas disposé à admettre cette autre forme de radicalité féministe underground instructif. J'ai trouvé ce petit texte sur une critique. Halluciné. Source.
Halluciné.
Après, là, c'est de moi. Oui ?
Il y a un truc juste qui me questionne, en fait. C'est autant dans ce qu'a dit Émilie avant que dans ce que tu dis, à chaque fois, j'entends relation de pouvoir. C'est-à-dire, pour moi, c'est ce qui dérange en gros, notamment la manière dont ça se concrétise dans le porno, mais que ce soit les hommes sur les femmes ou la réappropriation de leur corps par les femmes. Mais du coup, il y a encore cette notion de comme on se réapproprie notre corps, on est dans une notion de lutte, dans une notion de, voilà, de lutte de pouvoir. Et enfin, vous allez me dire, ouais, les bisounours, les machins et tout, mais enfin, je sais pas, pour moi, je trouve ça tout autant excitant. J'entends ni d'un côté ni de l'autre un truc où ça serait à égalité, excitation des deux côtés, tu vois.
Ben parce que justement quand on disait le porno est le reflet de nos rapports des rapports dans un monde patriarcal, est-ce que, et là je pense qu'il y a aucune étude qui peut nous dire oui ou non, est-ce que notre excitation et nos fantasmes sont toujours en lien avec nos luttes et nos ambitions féministes? Je crois pas.
Non, là-dessus c'est con, je ne l'ai pas ramené. Il y a un super article là-dessus de sexologue, comme quoi il faut se déculpabiliser sur nos fantasmes. Mais c'est pas. Je sais pas. C'est...
Mais en fait, l'histoire du pouvoir, c'est s'il y a consentement, si les personnes sont OK, comme disait Émilie tout à l'heure dans son. Dans ses. J'en sais, dans son blabla.
Dans mon blabla.
Pardon. Mais en fait, du moment que les personnes sont consentantes et que dès le départ, il peut y avoir des situations de dominée-dominante, mais c'est clairement établi. Les personnes savent où elles mettent les pieds, les mains.
Entre guillemets.
Et autre chose.
Et autre chose.
Et points. Et
les points.
Mais du coup, je t'ai coupé, mais c'est parce qu'en fait, moi, je voulais en arriver à. J'ai regardé des extraits des vidéos d'Erika Lust. Et moi, je retrouve dans ces vidéos-là, justement, cet aspect de complicité, de s'éclater de rire, et qui sont tout aussi excitantes, voir les deux partenaires.
Ça dépend pour qui.
Prendre leur pied. Oui, ça dépend pour qui.
C'est ça sûr. L'idée du
mais
porno.
En tout cas, voilà, pour moi, Erika Lust, là-dessus, elle a vraiment cette optique-là de s'éclater et de. Et
ouais.
Je vois pas de relation domination.
Il y a pas toujours.
Pas toujours.
C'est justement l'idée de. Enfin, coupez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais l'idée d'un féministe.
Non, vas-y, quoi. Non, rien, j'avais envie. Ok.
L'idée d'un porno féministe, c'est de entre guillemets, rajouter une catégorie aux excitations des nouveaux publics des femmes. Il va y avoir des femmes qui vont aimer ce porno féministe. Moi, perso, j'en ai regardé pour l'émission. En fait, de voir des. Je sais pas, ça m'excitait pas, tu vois. Par contre, d'un point de vue politique, de ramener le porno, en fait, que les femmes féministes s'en. Comment tu avais dit tout à l'heure ?
S'en emparent.
Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet aussi, encore une fois, de questionner nos excitations, nos désirs, nos fantasmes et peut-être de les remettre aussi en rapport avec notre. Oui.
Mais c'est ça que j'ai pas compris, en fait. Ce que t'as regardé, c'est du porno féministe ? Ou c'est la section porno pour femmes de You, Pornhub
Je regardais les deux. Et aucun des deux me...
Ah ouais, d'accord, parce que pour moi, c'est pas du tout la même
chose. Ah, c'est pas du tout la même chose.
Le truc pour femmes dans Pornhub, YouPorn, machin, c'est... Ah, mon amour, les petits oiseaux, les machins, enfin...
Oui, mais c'est nouveau, c'est venu en même temps que la montée des femmes qui prenaient le porno féministe. C'est-à-dire qu'elles ont permis de ramener ça, de permettre à... de permettre aux femmes, de, quand elles regardent du porno, de faire partie du public, de faire partie du public porno, quoi.
Alors, juste une chose, est-ce que ce serait pas quand même un tout petit peu avilisant, cette catégorie pour femmes, elle serait niaise et petits oiseaux, etc., et donc catégorisée, enfin, dénommée pour femmes.
Là, c'est pas du porno féministe.
Non, ça non. Mais du coup, on voit ça comme un progrès de, bon, on intègre les femmes dans les sites porno traditionnels. Finalement, regardez comment on les intègre, quoi.
Ah oui, oui, on est d'accord. Ouais. Ça ne règle pas le problème du porno. Bon.
On enchaîne ?
On enchaîne.
Parce que du coup, moi...
C'est on t'a coupé ta chronique.
Alors, pour réaliser son docu, Virginie Despentes a donc traversé les États-Unis, l'Europe, pour aller à la rencontre des pionnières de ce mouvement pro-sexe. Qu'elles soient activistes, photographes, travailleuses du sexe, artistes, toutes ont participé dans les années 80 à ce mouvement révolutionnaire. Le féminisme pro-sexe, pro-pute, porno, sadomaso, lesbien, PD, trans, oui.
Tu veux qu'on fasse une chanson?
PD, queer, pute, chat, pisse, trans, chat, chat, pite,
ok, il est 15h37, métro blanche, direction Clichy Mairie, RTD pour une performance. Jolie fille veut me faire offrande de ses orifices, alors on fait comment? On se mobilise, ouais, on se mobilise, pourquoi on se fait autant? Jolie cuisse étonnante, ma folie me guide, je suis un cerf-volant. Je suis chaud, si, même pas besoin de payer le restaurant. Je suis juste un gros ici, et ça c'est le temps. J'arrive à la station, j'ai plus la ligne qui parle de nation. Je sens que ma vie va faire des tractions, de la musculation. Je suis plus à la fellation, je crois que tu crois à cette putain de relation. Il est 16, 10, on part chez elle, tout est permis, elle est belle fils technique, à toi, dite énergie. De quoi simplifier les esprits, de quoi rabifier ses résines.
Ça sent la chatte,
mmh.
Ça sent la chatte,
bon, à la angle au direct, je peux plus faire le beau alors je le gère le dos du sec. Un petit, un petit, t'as de gros biceps, ouais, j'ai grossi et toi aussi t'as de jolies fesses. Musette, bas le morceau, la bête de meuf, le gigot d'agneau, la pièce de bœuf. La cuisson commence, la cible, le coup, la flossette de pêche, je la bouffe, car je la pièce de sœur. Qu'est-ce qu'elle aime, le crème, sa bohème, les poèmes, à bon passage, alors à quel problème de surf. Elle est trop belle, trop chienne de lust, un phénomène, trop frais, le must. Une open, c'est comme disait une grosse merde de cœur. Je suis une paix, pas petit téléphone, faire le cœur, je me lève, je prends l'oseille, je bluffe, je tends l'oreille, j'ai trop de flot, quand je gagne, je suis ferme, je bust.
Ça sent la chatte, ballon dans le cul, tu vas voir, ça va être sympa. Ça sent la chatte, tu lèches les couilles. Ça sent la chatte,
sympa.
Tu ça sent la chatte, chatte,
couille, couille, couille,
chatte, couille,
long, le cul long,
dans du ballon
dans le cul, tu vas voir,
ça va être sympa. Chatte, 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 quand on parle du féminisme, on entend le féminisme abolitionniste. Il assimile toute image porno à une atteinte à la dignité de la femme et réclame sa censure. À l'époque, dans les années 80, quand on parlait de féminisme. Il combat toute marchandisation de la femme et demande à la loi de venir sanctionner. Le féminisme pro-sexe vient contrebalancer ces idées de féminisme abo, dont les revendications seraient que le corps, le travail du sexe, la pornographie sont des outils politiques où la parole de celles et ceux qui sont directement concernés a plus de poids que la parole des expertes. Je veux dire par expertes, celles qui pensent parler mieux, alors qu'en vrai, elles sont à des années-lumière de savoir. Par exemple, de dire « Non, les femmes, il ne faut pas qu'elles vendent leur corps, alors que finalement, est-ce qu'elles sont vraiment au courant de pourquoi elles le font et qu'elles sont... les tenants, les aboutissants. Vous savez, la théorie, la pratique, tout ça, quoi. Le féminisme pro-sexe revendique de disposer de son corps comme on l'entend, mon corps, mon choix. Il et elle ne considèrent pas comme des victimes et se battent contre ce stéréotype de victimisation.
Yeah.
On vient d'entendre un morceau de Lydia Lunch Atomic Bongo.
Alors, c'était bien.
Ouais. Alors, Lydia Lunch, elle est dans le documentaire de Virginie Despentes. Et alors, elle fait de la musique, mais c'est aussi une artiste porno. Et voilà, il y a Siobhan Brooks, qui est une sociologue américaine qui travaille sur la thématique du travail du sexe, qui est aussi dans le reportage de Virginie Despentes, Carol Quinn, qui est une sociologue, sexologue, féministe, pro-sexe, Annie Springle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est stripteaseuse et actrice pornographique. Voilà, je vous ai balancé un petit peu des noms de protagonistes.
Qu'on mettra sur Facebook.
Ouais. Et même, j'ai vu aussi, quand j'ai fait des recherches sur le documentaire, il y a vraiment toute la liste des personnes qui ont participé à ce documentaire. Et du coup, c'est intéressant, en fait, d'aller voir qui sont ces personnes. J'ai failli perdre mon souffle. Et qui sont ces personnes et pourquoi elles sont dans ce documentaire et quel pouvoir, quel poids elles ont dans le docu. Et je trouve que c'est super chouette. D'ailleurs, Annie Springle, il y a un passage dans le documentaire que j'ai adoré, mais vraiment, je trouve ça fabuleux. Alors, dans un premier temps, elle est assise face au public, donc elle a une photo avec un vagin, une photo avec une bite, et donc elle explique le vagin, elle explique la bite, etc., au public. Et dans un second temps, elle s'installe donc sur une chaise, les cuisses écartées, avec un spéculum dans le vagin. Et elle invite tout le public à venir regarder son vagin, donc avec une lampe. Avec une lampe, en fait, ils sont tous là à regarder son vagin. Et alors, les réactions du public, elles sont étonnantes, quoi.
Il y a quoi, par exemple ?
C'est « Oh, merci ! Ah, waouh ! Ah, super !» Et elle est là.
J'ai jamais vu ça en vrai.
Et elle dit « Mais merci à toi d'être venue. » Ouais, on est dans les années 80 quand même, hein, tu vois. Donc, du coup... voilà, c'était assez assez rigolo ce petit passage du documentaire. En fait, le documentaire, donc, il est en anglais, français et espagnol, parce que du coup Virginie Despentes a fait une première partie donc aux États-Unis et est allée après à Berlin. Enfin, Berlin, c'est la fin. En Espagne, où d'ailleurs on retrouve un extrait une interview de Béatrice Preciado. À l'époque, ça s'appelait Béatrice Preciado, maintenant vous savez, elle a changé pour devenir il, donc Paul. Et très intéressant, où il parle du mouvement queer, en fait. Alors, est-ce qu'on rappelle qu'est-ce que le mouvement queer ?
Ben oui.
Alors, le mouvement queer, donc à la base, les queers, c'était une insulte. Donc, dans les queers, on mettait toutes les personnes qu'on qualifiait de déviants sexuels. Donc, les homosexuels, donc les trans, PD, bi, gouin. Donc, c'était vraiment une insulte. Et en fait, ce mot a été récupéré par les trans, PD, bi, gouin pour justement en faire une...
Se le réapproprier.
Se le réapproprier. Merci, Émilie. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Émilie, sur les queers ?
Ben, je voulais, mais j'ai perdu mes fiches.
Ah, d'accord,
alors,
ok.
Alors, pas pour aujourd'hui.
Donc, la pornographie...
La pornographie dominante nous impose qu'une vision, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Donc, dans la pornographie dominante, c'est la pornographie mainstream. Nous nous retrouvons enfermés dans ces rôles, cunnilingus, fellation... pénétration. Et je sais pas si vous avez déjà maté des pornos mainstream, mais qui s'adressent à une gente masculine plutôt hétéro, quand même, faut le dire. Les préliminaires pour la nana sont souvent bien rapides. Enfin, je sais pas, moi je... Ouais, Chloé, tu fais le signe tout petit, mais voilà.
Quand il y en a, parce que les quelques là que j'ai regardés, c'est direct. Hein.
Ah ouais,
c'est violent. T'en as 8 minutes, sur les 8 minutes, c'est direct. Tu pilonnes. D'accord. C'est okay. Le marteau piqueur là.
Oh, quelle horreur.
Mais non, mais pensez à lubrifier, bordel de merde.
Et donc les préliminaires sont souvent bien rapides. L'homme exige, la femme s'exécute. Tu verras rarement dans un film porno un homme se faire sodomiser par une femme dans un porno mainstream. Enfin, moi, j'ai jamais vu en tout cas une femme se mettre un god de ceinture.
Si, il y en a.
Dans le porno
Ben, le truc, c'est que quand on dit porno mainstream, on parle de YouPorn ou
Pornhub. Ouais,
Pornhub ou les pornos a, qui...
En fait, c'est dans les catégories. C'est, tu choisis.
Ah, c'est dans les catégories.
Et ça existe, oui, oui, d'accord. Ça existe quand même.
C'est vrai que j'oublie très rarement... Enfin, non, j'oublie...
Facilement.
Facilement, merci. Moi, je pense à porno qu'on trouve sur la télé, en fait.
Dans les années 80, je resitue. Allô, mais attends, quoi, t'as pas internet à la télé, quoi. Allô, les années 80, blit. Dans les années 80.
Bon, d'accord.
Ah oui, dans les années 80.
Oui, non, il devait pas y avoir...
Voilà.
C'était trop bien, t'attendais, tu sais, le samedi, le truc... C'était Canal Plus, c'était... Ça, c'est une chatte. Ah non, ça, c'est pas une chatte. Ah non, ma chatte.
Voilà. C'est la joie de...
La joie du décodage.
Du ouais,
criblé.
Crypté. Merci. Allez, j'ai aujourd'hui.
Du coup, j'ai noté où que oui, que dans les années 80, tu vois rarement un homme se faire sodomiser par une femme. L'approche de l'anus du 6 mec est vraiment cadenassée. C'est hors de question d'y approcher dans un rapport hétéro. Du coup, chaussons nos bottes de 7 lieux. On met nos bottes. Hop là, et traversons l'Atlantique pour se retrouver en Europe où le féminisme pro-sexe trouvera des héritières punk rock politiques des genres trans-PD Big Win. Les actualités avant. Rendre visible ce qu'il et elle souhaitent et refuser que ce soit l'État qui décide de ce qui est moral ou non. Des performances telles que BDSM. Vous savez ce que c'est le BDSM ?
Non.
Eh ben vous ferez des recherches. Voilà.
Oui, on peut faire un rappel quand même.
C'est le sadomasochisme. C'est le image.
Ouais, le bondage sadomaso, ouais. Et alors vous avez déjà vu, alors il y a un clip, c'est le Charibari en fait. Il y a un clip de Son Luxe Easy. Vous l'avez jamais vu ce qui fait bon bref.
Qui quoi ? Bah explique.
C'est la bande-annonce d'un film en fait, mais en gros le clip c'est du bondage sadomaso, enfin surtout bondage, et donc il attache les corps, ils font passer des cordes nues entre les seins, machin, pour se retrouver attachés. Et en fait, donc le BDSM, donc t'accroches donc le bondage, t'accroches ta ou ton partenaire, et après le sadomaso, ben bah, tu peux lui mettre des grosses queclas sur les fesses.
Des queues là.
Voilà.
Des claques. Ah, j'ai compris. Oh, ouais, bon, ça va. Une saucisse, hein. C'est bon. Ouais, ça va.
Alors, donc les performances telles que le BDSM, c'est bon, je vous ai expliqué ce que c'était. Des situations où les rôles sont inversés. La dominante dominant peut devenir dominé et inversement. Je vois le porno féminisme avant tout comme un message politique anti-patriarcal, dans le sens où tous les acteurs actrices sont à la même place. Certes, il peut y avoir des situations de domination comme dans le BDSM, dans le sadomaso, mais c'est avant tout un jeu où les règles sont expliquées. Ce jeu ne se fait pas sans le consentement, évidemment, des participants et participantes.
Le mouvement post-porno est une nouvelle étape de la révolution féministe. En mettant en scène une sexualité déviante qui ne s'adresse pas à l'œil hétéro-masculin, on fait céder dans le cerveau de qui regarde les résistances que d'autres y avaient implantées. La post-pornographie remet en cause tous les filtres castrateurs qui définissent ce qu'est la virilité. Un homme ne touche pas la bite d'un autre homme et son anus doit toujours rester verrouillé. À Barcelone, les nouvelles guerrières du post-porn sont punk, précaires, féministes et politisées. À base de godes, moustaches, fists, prothèses et personnages de comics post-movida, elles investissent tout ce que la pornographie dominante s'interdit. Ici, Mad Max se confronte à Judith Butler.
So relax and enjoy with us this wonderful journey.
En 2003, au MACBA, le musée d'art contemporain de Barcelone, le marathon post-porno invitait artistes, activistes, zonards et théoriciens à travailler ensemble sur un projet de recherche et d'investigation autour de la pornographie. La masse critique post-porno émergeait.
Oh.
Alors, c'était un extrait du film Mutante Porno Punk Féminisme. Alors, cet extrait, à la fin, vous avez entendu des personnes jouir. Donc, ils sont dans une salle. Et donc, il y a des mecs, des meufs, l'un en face de l'autre. Et pour les meufs, ouais, pour les meufs, elles ont un god ceinture. Et les mecs, ils ont. Enfin, tous. En fait, ils ont tous un god ceinture. Et la personne qui est en face les suce. Et du coup, dans un micro à côté, c'est par rapport à l'expérience qu'ils ont fait, etc. Dans un micro à côté, t'as un mec et une nana qui font les bruits de jouissance et à la fin qui éjaculent. Et du coup, ils sont tous là, ils sont tous morts de rire, ils se prennent dans les bras parce qu'ils sont trop contents d'avoir participé à une espèce de fausse éjaculation. Mais en même temps, ça leur a donné beaucoup de plaisir de faire ça avec des personnes qu'ils connaissaient pas. Et voilà. Voilà! Le féminisme pro-sexe. Mais effectivement, moi, quand j'ai re-regardé ce documentaire hier, bah, y avait des moments où j'étais là, oh, ça me titille un petit peu dans la culotte.
Bah, j'espère, hein, parce que ah ouais, c'est, bah, fait
ouais,
pour.
Ouais, c'est fait pour. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que Chloé, on a un petit peu éclairé tes lanternes par rapport à cette histoire de pouvoir?
Oui. Oui. Tu as éclairé ma lanterne. Merci de m'avoir guidée à travers cet océan cyprinesque.
Alors, gorge profonde, ça vous dit quelque chose?
Ah ouais.
Oui.
Ça vous dit quoi?
Porno.
Oh, pas mal.
Qui avale très très loin.
Jusqu'aux testicules, normalement.
Ah
ouais.
Jusqu'au bout du bout du bout, de l'infini et l'au-delà
et,
même.
Et ça te donne des renvois et les meufs, elles ont envie de vomir.
Mais ça, c'est juste parce qu'on s'est bien informé pour l'émission.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors bon, on pourrait détailler encore, hein, longtemps. Mais on comprend quand même de quoi il s'agit. Et en l'occurrence, ce sont les prouesses buccales qui nous viennent de Linda Lovelace, qui avait donné ce titre, Gorge profonde, au film Deep Throat.
C'est la traduction.
Elle est devenue célébrissime dans ce film, où une déformation génétique lui confère, devinez quoi, un clitoris mal placé. Il est au fond de sa gorge, le pauvre... Mmh. Ah, du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh ben, pour jouir, elle est obligée.
De sucer.
Hein, mais bien profond, ben voilà, ouais. Au fond de sa gorge.
Deep, deep, deep.
Tourné en 1972, il est l'un des premiers films porno à se pencher sur le scénario et à développer le fond des personnages. On ne croirait pas comme ça.
Elle est bien au fond, ouais.
C'est génial. Ouais, ils parlent tous, hein, ils disent des mots normaux entre les scènes. Alors après ce film, on parlera de porno chic du coup. Ça, c'est la page Wikipédia. En fait, il y aura beaucoup à dire sur le film lui-même, notamment aussi parce qu'il a été le symbole de toute une génération, comme on disait tout à l'heure, de femmes libérées. Il a eu des conséquences sur le fait que la femme aussi a droit à son plaisir sexuel. La preuve, le scénario, c'est son clitoris est au fond de sa gorge. C'est pour ça, la pauvre, qu'elle doit sucer des bites. Voilà. Enfin,
ils ont été où à l'école pour faire des cours d'anatomie
Alors devine quoi, c'est un médecin qui lui donne cette révélation et qui lui dit « Essayez donc, madame !» Et pouf, oh là première là, scène de cul.
C'est génial.
Mais c'est de la science-fiction, non?
C'est drôle, c'est super drôle.
Ah ouais. C'est autre chose à retenir de ce film aussi, mais on va pas en parler, mais je vous en touche juste un mot parce que c'est rigolo.
Non, n'en parle pas, tu dis.
C'est pas très rigolo, c'est même un peu glauque. La conséquence majeure de ce film, c'est qu'il y aurait eu beaucoup plus d'hospitalisation de femmes après la sortie pour cause de viol de la gorge perpétré par leur partenaire.
Oh là là.
Wow.
Voilà, genre, oh vas-y, elle le fait toi aussi.
C'est vrai?
Ouais.
Mais oui.
Mais sauf que, comme disait Chloé tout à l'heure, ça provoque quelques renvois et certainement d'autres problèmes. Et donc, hospitalisation obligatoire. Voilà, mais c'est pas de ça qu'on va parler, puisque...
C'est moins drôle d'un coup, hein.
Ouais, tout de suite. Donc, on va parler plutôt de l'actrice principale. Elle aussi, c'est pas très drôle. En fait, tout ce film, c'est vraiment glauque, hein. Du coup, on continue comme ça. L'actrice, jusque-là, rien d'autre qu'une réussite professionnelle de cette actrice. Hein. Mais les choses se compliquent en 1980 lorsque Linda Lovelace, qui avait mis entre parenthèses son jeu d'actrice, publie son autobiographie qu'elle appelle « Ordeal, l'épreuve ». Donc ça laisse entendre bien des choses. Elle y raconte l'enfer qu'elle a vécu, bien loin de l'actrice libérée et passionnée pour laquelle on a voulu la faire passer. Elle accuse son mari de l'époque, qui n'était autre que son agent, d'avoir orchestré sa carrière, d'avoir totalement monnayé son corps, de l'avoir fait jouer des scènes sous la menace d'une arme. Bref, d'avoir été son Mac. Le journal The Week va même jusqu'à affirmer que son mari l'a forcée à se prostituer auprès d'un médecin pour payer les injections de silicone qu'il voulait qu'elle ait. Donc au-delà de sa propre carrière, dans sa vie privée aussi, semblerait avoir souffert de tout ça. Mmh. On est loin du porno féministe finalement. Au-delà d'une affaire privée de violence conjugale, Linda Lovelace remet en question du coup tout le monde du porno. De nombreux passages de son autobiographie dénoncent la violence et la soumission sexuelle qui a pu survenir entre les scènes. Alors, on pourrait croire qu'ainsi la parole est libérée, qu'on va pouvoir avancer dans les droits de l'actrice porno. En fait, pas vraiment. Puisque l'opinion publique, guidée par des médias sceptiques, décide de ne pas la croire. Attendez, elle a tellement l'air d'aimer ça, elle a sûrement pas été forcée, hein, regardez comme elle kiffe dans le film. Mmh. On pouvait lire ça après l'apparition de son livre. Et les journalistes n'hésitent d'ailleurs pas à lui demander, quand même, est-ce que vous n'auriez pas un peu pris votre pied sur ce tournage ?
Putain, c'est chaud.
Voilà, donc Linda Lovelace, avec son bouquin, elle est bien barrée, quoi. Sa bonne foi est mise en doute, on pense qu'elle veut vivre du scandale et de la vente de ses livres, encore pire en fait, qu'elle veut s'en faire sa pub. La réponse est assez directe, puisqu'elle lance cash comme ça dans les médias. « Chaque personne qui va voir Gorge Profonde me regarde me faire violer, c'est une honte que ce film soit encore projeté. » Linda, qui a quitté son pseudonyme de Lovelace pour reprendre son vrai nom, Borman, se fait la porte-parole du féminisme dans le porno. Elle soutient par exemple un texte de loi proposé en 1983 pour faire reconnaître la pornographie comme une forme de discrimination sexuelle afin d'aider les femmes victimes de l'industrie du X à porter plainte. Bon, finalement, le texte ne sera pas adopté, mais elle aura combattu toute sa vie les injustices du porno.
Mais il y a un texte qui a été adopté un peu plus tard, il me semble, aux États-Unis.
Oui, mais alors je crois que c'était un peu plus tard quand même.
Ouais, mais
tout, oui, malgré tout, ça a quand même
aujourd'hui,
évolué.
Il existe.
Oui, ça a quand même évolué depuis. Heureusement, hein, 1983, là, on est. Mm. Je suis un peu à la même époque que Mimi, aujourd'hui.
Ou c'était encore des VHS.
Ouais, on voilà. Avait le Walkman.
Ouais. Ouais.
Alors, vérité ou mensonge, victime ou fausse repentie, finalement, peu importe, puisque Linda Lovelace a décidé de militer pour toutes les autres et d'ouvrir le débat public. Donc, même si elle a menti, au fond, il y a bien des actrices porno qui se font violer. Alors, elle a eu raison d'ouvrir ça. Voilà, on peut conclure sur une note encore plus joyeuse en disant qu'elle est morte sans un sou d'un accident de voiture. Voilà, rendons-lui hommage puisqu'elle a quand même ouvert tout un pan de féminisme.
Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser à une autre nouvelle qui s'est passée en décembre dernier. Je sais pas si vous avez vu le dernier tango à Paris.
Oui, j'ai vu le post que t'as mis sur Facebook.
Aussi, ouais.
Et c'est à peu près la même histoire. Enfin, Dernier Tango à Paris, c'est un film italien tourné avec Marlon Brando et une actrice française.
Schneider. Maria Schneider.
Maria Schneider. Et dans le film, il y a une scène. Donc, c'est pas un film pornographique. Hein. C'est un film dit du classique du cinéma italien avec des scènes érotiques. Et l'histoire, c'est cette jeune femme à Paris qui tombe amoureuse d'un vieux américain qui est Marlon Brando. Et il y a une scène mythique, culte, qu'on dit culte aujourd'hui. C'est une scène de viol où en fait elle se fait enculer avec une motte de beurre. Donc il utilise du beurre pour que ça lubrifie plus. Et elle a déclaré après que en fait elle n'était pas prévenue. Que cette scène allait être tournée, et en fait, elle s'est vraiment fait violer. Il n'y a pas eu pénétration, mais en tout cas, elle n'était pas au courant qu'ils allaient utiliser du beurre et la filmer. Et là, elle est morte en 2011 ou 2010. Et deux ans après, Bertolucci, le réalisateur, a avoué dans une interview, justement, que il se sentait un peu coupable de ne pas l'avoir prévenue parce que elle, ça, en fait, c'est pareil, elle est morte sans sou, elle a pas réussi à faire carrière, elle a eu des problèmes avec la drogue.
Elle a une grosse pression.
Qu'elle s'est suicidée en plus.
Je crois pas qu'elle se soit suicidée, mais
il me semble que c'était à vérifier.
Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que là, c'est ressorti en décembre l'interview du réalisateur et où il dit. Oui, je me sens un peu coupable et je suis triste qu'elle soit morte avant que j'ai pu m'excuser. Et il y a l'animateur qui lui demande « Mais vous regrettez d'avoir tourné cette scène ?» Et il répond « Non, je ne regrette pas, mais je me sens coupable. »
Ouais, dans l'article, c'est... Non, mais c'est un truc de...
Et donc, le film est des années 70, de 72, donc à peu près à la même époque de ce dont Mimi, tu parlais, et Amélie, Gorge Profonde. Et c'était et effectivement, il y avait vraiment personne l'avait écoutée elle quand elle avait dit ça, personne l'a aidée. Il n'y a pas eu d'interview. C'est en 2013 que lui, il sort, enfin il répond dans cette interview, et c'est en 2016 que l'interview ressort.
Ah ouais, donc il a fallu 50 ans pour faire la lumière, quoi.
Non mais à gerber, parce que en plus en relisant l'article que t'as posté, apparemment c'est une scène qu'ils avaient décidé avec
Brando
le matin pour et qu'ils voulaient justement avoir cet effet de surprise et c'est pour ça qu'ils avaient décidé de pas en parler à l'actrice.
C'est ça qu'il dit. Voilà. Il dit moi je voulais qu'elle ait sa réaction de fille et pas d'actrice.
Voilà.
Donc en gros les pleurs qu'on voit, la douleur qu'on voit à l'écran,
c'est réel.
Ouais.
C'est un viol.
Et du coup, elle a fait une grosse dépression tout de suite à tout ça, parce qu'elle n'a pas été entendue, elle l'a super mal vécu, surtout, quoi.
Bah, elle disait, je me suis sentie violée et par Bertolucci et par Brando, quoi. Et puis, en plus, filmée et vue par des milliers de personnes.
Voilà,
est devenue une scène culte du cinéma.
Dans les Cyprinettes vous guettent et on vient d'entendre une chronique bien poignante d'Amélie sur Linda Lovelace et on a un petit peu survolé aussi avec Émilie et Mimi le porno dans les années 80, mais alors aujourd'hui on en est où?
On doit toujours se poser des questions sur le porno, même aujourd'hui, et même si on peut le cautionner en tant que féministe, on peut aussi remarquer ses dérives.
C'est pas le cautionner,
c'est l'apprécier.
Ouais, le féminisme, non.
Disons
le porno mainstream, en fait, là-dessus, ou qui a questionné, et où beaucoup de personnes s'identifient à ça, alors qu'en vrai, il n'y a pas que ça, et aller voir ailleurs, parce que c'est pas très beau, en fait, moi, je trouve, le porno mainstream.
Ouais, et par contre, il y a des films érotiques trop bien, et que c'est bien aussi d'aller les regarder.
Ouais, c'est un autre sujet.
Ouais.
Au-delà de ça, aussi, c'est qu'on n'est pas là non plus pour juger les fantasmes, et si, bon, il y en a certains qui sont... Dans les pornos mainstream, ben, il n'y a pas de culpabilisation à avoir de regarder un porno, qu'il soit mainstream ou pas, à partir du moment où on fait, comme tu dis, cette différence et de ne pas reproduire dans la vie réelle qui reste du domaine du fantasme. Mais ce qui nous excite nous appartient. Juste se questionner sur le fait que ces fantasmes ils continuent à perpétuer toutes ces relations de domination dans cette société pourrie, quoi.
Je suis pas d'accord.
Hein. T'es pas d'accord avec quoi?
Ben par rapport à ce truc de porno mainstream. Enfin moi, clairement, le porno mainstream pour moi c'est le patriarcat qui l'érige, quoi. Le porno qu'on voit, qui est accessible à tout le monde.
Mais
non,
oui,
dis pas le contraire. On a pas dit que on peut avoir, on peut être excité en regardant en regardant du porno mainstream.
D'accord.
Bah, voilà, c'est... le fait est de se souvenir, comme tu disais tout à l'heure, Émilie, dans quel rôle on se met et quelles en sont les limites et qui est d'accord, qui ne l'est pas, à partir du moment où tout le monde a envie de fonctionner comme ça et que c'est de son plein gré.
Ouais. Après, je veux pas parler à la place d'eux parce que je sais pas, mais je pense pas que clairement ce soit du porno où la nana elle est épanouie en fait.
L'actrice, tu veux
l'actrice,
dire.
L'actrice, ouais.
Non, voilà, faudrait qu'on parle de. Ouais, enfin, on en a parlé un peu, enfin beaucoup d'ailleurs, avec la chronique d'Amélie. Non, il y a effectivement des coulisses. Mais... à gerber et
mais pas toujours.
Là on parle et pas toujours, mais on parlait de notre rapport d'excitation à face à ça en fait. Est-ce que on doit se sentir encore plus coupable de.
Là on reprenait un petit peu sur notre rapport au porno, notre rapport d'excitation.
Non mais oui parce que il faut penser à tout ce qu'il y a derrière quoi. Voilà. Le porno pro-sexe féministe, en fait, moi, je me retrouve plus là-dedans où j'aurais plus d'excitation parce que je sais d'où ça vient, parce que je sais dans quelles conditions c'est fait, parce qu'il y a un message politique, il y a tout un truc derrière qui, moi, je me reconnais là-dedans. Alors que le porno que je vais regarder, finalement, je vais pas me sentir hyper à l'aise après, mais après, ça, c'est moi, hein. Parce que il y a toutes ces coulisses là où la nana, elle a pas forcément trop le choix de dire non là j'aime pas trop ça, là j'aime pas trop, mais si t'aimes pas tu t'en vas, il y en a d'autres qui prendront ta place et voilà en fait, c'est juste ça.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis Mimi, c'est ça me fait penser à un sociologue qui étudiait notre propre rapport à la domination, enfin le syndrome de Stockholm ou quoi, où en fait la femme serait elle aussi excitée par des rapports de domination où elle aimerait elle-même être dominée, elle demande, je sais pas, les insultes, les choses comme ça, et dans sa propre vie sexuelle et dans le porno, et dans quelle mesure elle est libre quand elle veut ça, on sait pas en fait, on pourra jamais juger, parce que dans quelle mesure c'est la société qui lui a dicté ce choix-là, ou son éducation, dans quelle mesure c'est son libre arbitre.
À partir du moment où tu utilises le terme de syndrome de Stockholm, il y a un jugement.
Ah oui.
C'est que tu juges qu'elle n'est pas libre à partir du moment où tu dis ça.
Parce qu'il y a un rapport de domination. Le fait est qu'il y en a un, mais est-ce qu'elle veut pour de vrai ou pas ?
Ça contredit tout ce qu'on a dit avant, en fait, là. À partir du moment... Enfin, tout ce qu'on a dit avant, c'est qu'il y a des scénarios de rapport de domination, à partir du moment où on place l'histoire, où on le dit, ou quoi que ce soit. Et certes, c'est une histoire, mais après, quand tu es dans ton acte sexuel, quand tu es dans ta recherche d'excitation, t'es pas dans ta psychanalyse personnelle. Sinon, l'excitation, après, je sais pas, chacun est ce qu'il est, mais... Enfin, pour moi, ça colle pas ensemble, si tu veux. On est dans deux niveaux différents, en fait, pour moi. C'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que chacune a l'excitation qu'elle a ou quoi que ce soit.
Bien sûr, mais c'est ce qu'il y a derrière en fait. Moi, c'est la forme, c'est le fond en fait. C'est le fond, ou comme je dis que je me reconnais plus, parce que quand je vois le documentaire de Dépente, il y a des passages qui sont bien trash, où à la fin, il y a une nana qui a la gueule en sang... etc. Mais parce que voilà, mais c'est le fond est pas le même. Le fond, c'est établi les uns avec les autres. C'est un message politique. Je me répète, mais voilà. Alors que dans le porno mainstream, je vois pas trop les messages politiques en fait.
Mais il y en a pas.
Voilà.
C'est ça que Chloé expliquait. On parlait de deux sujets différents. Là, toi, en fait, on est passé à ce sujet de notre rapport personnel à notre excitation en fait. Et ça n'est effectivement c'est un problème les coulisses et on se la pose hein, la question. Mais le moment où t'as ton excitation, comme dit Chloé, tu fais pas ta psychanalyse de pourquoi ça m'excite.
Chacun a son excitation à soi. Mais pour moi, en tout cas, et il me semble que la plupart des sociologues se basent là-dessus, les sexologues d'ailleurs le disent, il faut bien séparer et déculpabiliser. C'est-à-dire qu'on a l'excitation qu'on a Eh bien oui, comme tu disais, on va enlever l'expression syndrome de Stockholm, oui. Mais il y a certaines femmes qui vont trouver leur excitation en s'imaginant être violées, et bien après peut-être qu'elles auront besoin d'aller voir un psy pour chercher le pourquoi du comment de ce que ça arrive à ça. Mais n'empêche que c'est important aussi qu'elles connaissent leur déclencheur du plaisir, pour ensuite peut-être le faire évoluer ou se rendre compte pourquoi il y a tel ou tel déclencheur.
Alors juste Chloé, ce que je voulais dire avec le syndrome de Stockholm, c'est sa théorie à ce sociologue, c'est lui qui le dit. Il dit peut-être que c'est du registre du syndrome de Stockholm, cette volonté d'être humilié, dominé, etc. Tu vois, voilà, c'est juste son explication de comment une femme peut-elle être excitée parce qu'elle est humiliée. Eh bien, en fait, parce qu'elle a intégré le fait qu'elle était dominée. Voilà. Enfin, c'est juste son explication. Elle est bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, ça me pose la question du libre arbitre.
Sur ce...
Attends. Qu'est-ce que t'as là? Non, attends. Là. Ah, yes. Ah, je crois qu'on a trouvé un bel extrait du film « Ceci est mon corps ».
Exactement. Et ça va... pile poil rebondir sur ce qu'on venait de dire, puisque, histoire de s'en persuader un peu plus qu'il y a un fossé énorme entre la vie réelle et le porno, parfois, on va écouter un petit monologue pour nous dire, avec virulence et pédagogie, quelle est la teneur de ce fossé.
Pose ta main, là.
Comment ça ?
Là, ta main.
Aïe.
Laisse là ou je hurle ? Alors, tu vois ça ? C'est à peu près ce que ça nous fait, les coups de boutoir. Et ta main, elle est loin d'avoir la sensibilité d'un clitoris, alors tu multiplies ta douleur par 10. Alors c'est sûr, au cinéma, c'est et puis la femme, elle jouit. Mais dans la vie, ça marche pas comme ça. Dans la vie, nous, on a besoin de contournements, d'approches subtiles, de délicatesse, de caresses, et puis des mots doux. Surtout des mots doux. Parce que tu vois, chez nous, ça va du cœur au sexe. Oui, alors je sais, chez vous, c'est du sexe au cœur. Seulement, voilà, la pénétration, pour nous, c'est pas le must. Parce que nos deux principales zones érogènes, le clitoris et le point G, ben, sont pas vraiment stimulées par votre...
Le point G, c'est un mythe.
Ah ouais? C'est sur Internet que t'as vu ça? Ça t'arrange bien, hein? Alors, pour ta gouverne, sache que le point G, c'est pas un point d'ailleurs, hein, c'est une zone dans le vagin, vers le pubis, de la dimension d'une pièce de 1 euro et d'une consistance un peu plus granuleuse que le reste de la paroi. Et si tu as bien excité une femme, si tu lèches habilement son clitoris et si tu stimules en même temps son point G, pour elle, c'est le septième ciel garanti. Seulement vous, ça ne vous intéresse pas beaucoup, ça. Hein, vous, votre seul but, c'est de tirer.
Mais pourquoi ils ne montrent pas ça dans les films porno, alors?
Parce que tu regardes des films porno, toi? C'est dingue, ça. Mais ces films, ils sont faits par des hommes, pour des hommes. Et les hommes, dans leur grande majorité, ils ont peur du plaisir des femmes. Ah oui, c'est sûr, c'est pas propre sur soi, bien coiffé, rien qui dépasse une femme qui prend son pied. Hein. C'est un animal, c'est une bête monstrueuse qui fait peur aux petits enfants. Et les petits enfants, bien frustrés, bien peureux, terrés dans leur coin, qu'est-ce qu'ils font pour se protéger du plaisir de la femme? Ben, ils inventent la religion, toutes les religions. Et si elle jouit comme une bête, alors elle sera punie là-haut au ciel. Mais ils naissent comment, les hommes? Tous les hommes, ils passent pas par le ventre d'une bête? Une femme qui accouche, c'est propre, bien coiffé, élégant. Ça gueule pas comme un putois. C'est pas à deux doigts de mourir. Ça se dilate pas monstrueux pour laisser passer l'enfant sanglant. Et ben quand ça prend son pied, c'est pareil. C'est dans son ventre, dans ses tripes. Et ça se dilate dans tout son corps. Alors oui, forcément, hein, si c'est juste pour la procréation, il n'y a pas de problème. Réflexe éjaculatoire, 5 à 30 secondes, c'est terminé. Mais si tu veux accéder au plaisir, à l'extase... Si tu veux que la femme, elle devienne la déesse pour toi, alors faut que tu deviennes un artiste. Et un artiste, c'est fort, c'est costaud, ça n'a peur de rien, ça tient debout dans la tempête, ça chevauche le tigre, ça étreint la hyène, et ça part voyager dans l'univers, les étoiles, le grand tout. Rien à voir avec les simagrées et les chichis des actrices porno. Actrice, tu entends ? Actrices, ça veut dire qu'elles sont payées pour te faire croire qu'elles peuvent prendre leur pied avec ton sexe dans le leur. Mais ça n'existe pas. Une femme ne peut pas prendre son pied avec juste le sexe de l'homme dans le sien. Aucune femme, ça n'existe pas. L'orgasme vaginal, c'est un truc inventé par Freud, qui a reconnu lui-même à la fin de sa vie qu'il ne comprenait rien à la sexualité féminine. Et nous, on se mange cette absurdité depuis un siècle. Mais basta! Basta!
Génial.
Excellent.
Tu l'avais jamais entendu?
C'est
ça tourne pas mal depuis un moment.
Alors, c'est un extrait de Ceci est mon corps, qui est un film de Christophe Lévesque, où Marina Tomé nous fait ce monologue. Alors ouais, il y a quelques clichés. Ça brasse quelques clichés quand même. Hein. La hyène, tout ça. Moi, je me suis pas trop reconnue.
Oui, les mots doux.
Les mots doux non plus.
Hein. Oui, oui.
Voilà. Mais ça a le mérite de dire quelques vérités.
Démystifier l'orgasme vaginal. Putain, Freud.
Et donc, c'était la douzette des Cyprinettes. Douzette sur le porno féministe. Et donc, la prochaine fois, on reviendra avec la zapette, avec plein de surprises. Et voilà, et toujours la droite dans nos culottes. Allez, au revoir à tous.
Et merci Amélie pour le montage et la technique.
Et merci Radio Larzac.
Et merci les Cyprinettes.
Bisous.
Les Cyprinettes vous guettent.
Les Cyprinettes vous guettent.